je vais partir du constat qu'on trouve dans la philosophie de Bentham, à la fois une critique radicale de l'idée nation et la première apparition de l'expression droit international. Alors Bentham crée en effet lui-même le terme international afin de remplacer l'expression anglaise droit des nations, those of nations, et l'expression française de droit des gens. Alors comme le souligne Bentham, l'appellation droit des nations n'est pas expressive. Elle ne manifeste pas les caractéristiques de son objet. En effet, elle le présente comme le droit qui appartient aux différentes nations. Or, cela ne permet pas de le distinguer de n'importe quelle autre branche du droit. De la même manière, le droit des gens, si on s'en tient à ce qui est suggéré par l'appellation elle-même, apparaît comme le droit qui appartient aux gens, le droit qui s'applique aux individus qui forment une nation donnée. Alors, aucune de ces deux expressions ne manifeste qu'il s'agit en réalité des relations entre les nations. Le terme international, au contraire, exprime que le droit en question ne concerne pas l'organisation interne aux différentes nations, mais bien leurs relations. Alors, la création du terme international par Bentham, c'est également une reconnaissance de la nation comme sujet de droit. Or, une telle reconnaissance est paradoxale, dans la mesure où le principe d'utilité aboutit au contraire à une remise en cause radicale de l'idée même de nation. Ainsi, dans la table de ressort de l'action, Bentham souligne une des conséquences apparemment problématiques du principe d'utilité. Alors, je cite la traduction de M. Clairaut. Selon l'utilité, le plus grand bonheur du plus grand nombre est la fin. Supposez que votre État soit en guerre contre un autre État plus peuplé. Selon l'utilité, vous devez sacrifier votre propre État à l'État ennemi. Et en effet, le principe d'utilité pose, comme seule fin morale, le plus grand bonheur du plus grand nombre. Dès lors, les intérêts des différentes nations ne sont pas équivalents. L'intérêt de la nation plus peuplée doit systématiquement prévaloir. Alors, pour se conformer au principe d'utilité, le citoyen d'une nation peu peuplée devra donc sacrifier les intérêts de sa nation à ceux de nations étrangères. Ici, c'est le concept même de nation qui perd toute pertinence politique ou morale. La nationalité en elle-même n'a pas de signification morale. Appartenir à une nation déterminée ne confère aucun devoir particulier envers celle-ci. Alors, c'est donc la possibilité même d'un droit international qui apparaît compromise. Si la nation n'est pas le sujet adéquat des intérêts, si la nation n'est pas le but légitime de l'action, quel objet pourra-t-on donner au droit international? Autrement dit, une fois que le principe d'utilité a fait éclater l'objet même du droit international, comment peut-il en devenir ensuite le fondement? Alors, si le principe d'utilité met en cause les nations, le droit international constitue en retour une mise à l'épreuve pour le principe d'utilité. En effet, il faut bien qu'un droit international soit possible. Le principe d'utilité ne doit pas disqualifier la nation comme sujet de droit et de devoir. Il doit au contraire permettre de comprendre, de réguler les rapports entre les nations. Or, au-delà de ces difficultés d'interprétation liées à l'idée même de nation, la possibilité d'un droit international est loin d'être évidente. Ainsi, à propos des droits et des devoirs entre les nations, Bentham affirme qu'ils ne sont pas à proprement parler des droits et des devoirs légaux, mais uniquement moraux. Les relations entre les nations ne dépendent pas du droit, mais plutôt de la morale ou de la coutume. Selon Bentham lui-même, au moins dans son projet d'accord complet de loi, ce n'est que par métaphore que l'on parlera de droit international. Je cite Bentham, « Les coutumes qui constituent ce que l'on appelle le droit des nations » ne peuvent être appelés droits que par une extension de la signification de ce terme et par métaphore. Donc de nouveau, la position de Bentham vis-à-vis de ce droit apparaît paradoxale. Il en souligne l'importance, d'une part, puisqu'il dit par exemple à propos des lois constituant le droit politique et le droit international, que le bonheur de la race humaine serait permanent s'il était possible d'élever ces deux classes de lois pour rendre loi complète et organisée. Il est donc essentiel de transformer en un véritable droit ce qui ne relève d'abord que de la coutume ou de la moralité. Mais d'autre part, Bentham dit bien que c'est nécessairement que le droit international est incomplet et défectueux. Alors, le fait que les prétendues lois du droit international ne soient en réalité que des coutumes n'est pas un défaut lié uniquement au common law, ni une défaillance des législateurs qui ont précédé Bentham. En effet, dans les rapports internationaux, il n'existe aucun tribunal, aucune procédure pour faire appliquer ce qui pourrait être considéré comme loi. Dans cette perspective, la possibilité du droit international est liée à la possibilité d'une autorité commune aux différentes nations. Il n'y a pas de droit sans sanction, mais quel est le pouvoir qui pourrait sanctionner les nations? Enfin, même s'il existait des instances internationales pour faire respecter le droit, comment obtenir de telles instances qu'elles soient impartiales? N'est-il pas inévitable que le jugement de la nation la plus puissante finisse par l'emporter? En voilà les paradoxes, les difficultés qu'il faudra réussir à surmonter pour assurer la possibilité et l'effectivité du droit international. Pour y parvenir, nous envisagerons successivement le sujet du droit international, c'est-à-dire la nation, la sanction du droit international, l'opinion publique principalement, enfin la fin du droit international. Alors commençons par le sujet du droit international, c'est-à-dire par la nation. Alors, la nation est une fiction, dans la mesure où elle n'a pas d'existence en dehors des individus qui la constituent. Comprendre ce qu'est la nation impose donc de montrer le lien déterminé qu'elle entretient avec les entités réelles qui la fondent. Or, dans l'ontologie de Bentham, les entités réelles qui fondent les fictions de la morale et de la politique sont d'abord les plaisirs et les peurs. Ainsi, dans ses principes du droit international, pour définir la nation, il va mettre en évidence le lien qui existe entre cette fiction, d'une part, et les plaisirs et les peines des individus qui la composent, d'autre part. Or, ce lien est réalisé par le concept de souveraineté. En effet, le souverain est défini comme celui qui détient le pouvoir d'infliger régulièrement à certains individus une douleur ou une privation de plaisir. C'est uniquement parce que le souverain possède ce pouvoir sur ses sujets qu'il est en mesure de leur imposer des obligations. Par exemple, il existe pour un individu donné une obligation d'accomplir un acte lorsqu'il doit subir une douleur ou une privation de plaisir dans le cas où il ne l'accomplirait pas. Le souverain est alors identifié comme la source de cette douleur, de cette privation de plaisir qui rend l'obligation effective. Enfin, la nation elle-même est identifiée à la souveraineté, dans le sens où la nation s'étend jusqu'où s'étend une souveraineté particulière. La nation, c'est ce qui réunit les individus soumis à un souverain particulier. Cependant, il convient de distinguer, à la suite de Bentham, la souveraineté simplement possible, la souveraineté factuelle et la souveraineté légitime. La souveraineté possible est mesurée par la force d'un souverain. Elle s'étend à tous les individus qu'il est capable d'affecter. La souveraineté factuelle est restreinte aux individus pour lesquels la puissance d'un souverain donne effectivement lieu à des obligations et à des interdictions juridiques. La souveraineté légitime, enfin, est celle qui est définie conformément au principe d'utilité. À ce moment, la souveraineté est interprétée comme un bien qu'il s'agit de répartir entre différents souverains possibles. Et cela conformément aux exigences du principe d'utilité. La répartition juste sera dans celle qui maximise la satisfaction des souverains concernés. Or, selon Bentham, un souverain s'attend à exercer un pouvoir légal sur tous les individus nés sur son territoire. En effet, le territoire est le premier critère définissant son attente. Mais à celui-ci s'ajoute la naissance. En effet, le simple fait qu'un individu se trouve sur son territoire ne suffit pas à déterminer pour le souverain une attente rationnelle et légitime de domination légale sur celui-ci. L'individu en question pourrait être simplement de passage, et de ce fait se trouver davantage soumis à un autre souverain. La naissance, en s'ajoutant au territoire, donne alors une raison suffisante pour espérer une domination légale sur un individu. Le souverain s'attend rationnellement et légitimement à exercer un pouvoir légal sur tous les individus qui se trouvent nés sur son territoire. Dès lors, si ce pouvoir lui était refusé, le souverain subirait une peine spécifique qu'on peut appeler une peine d'attente déçue, d'espérance déçue. C'est afin de minimiser cette peine que le principe d'utilité impose de reconnaître comme légitime pour un souverain particulier la domination qu'il exerce sur les individus nés sur le territoire se trouvant le plus directement soumis à son pouvoir. Donc les limites de la nation sont plus précisément les limites de la souveraineté légitime. La nation elle-même apparaît comme un objet défini et constitué par le principe d'utilité et en vue de l'instauration du droit international. Toutefois, la souveraineté n'est pas la nationalité. La nation implique un lien particulier entre les citoyens. Ce lien est réalisé par la sympathie. Sympathie qui lie les citoyens entre eux en attachant chacun d'eux à l'ensemble qu'ils forment. Ainsi, bien qu'elle soit une fiction, la nation peut être l'objet de la sympathie des citoyens. L'attachement affectif à la nation peut être bien plus fort que l'attachement affectif à tel ou tel citoyen appartenant à cette nation. Or, cette sympathie, essentielle à la nationalité, peut être utilisée à des fins politiques et d'une manière contraire à l'intérêt du plus grand nombre. Ainsi, dans bien des cas, il est possible d'opposer les intérêts réels des individus et les intérêts imaginaires de la nation. Une telle opposition est manifeste notamment dans le cas des colonies. Alors, les dirigeants justifient la colonisation le plus souvent par le rang ou par l'honneur de la nation. Or, l'intérêt du plus grand nombre est en réalité de ne pas posséder de colonies, que Bentham juge coûteuse et source de conflit. Il y a alors un intérêt imaginaire, celui de la nation, et un intérêt réel, celui du plus grand nombre des individus qui la constituent. Ainsi, s'adressant aux citoyens espagnols, Bentham peut-il affirmer « Allez-vous sacrifier tout intérêt substantiel à l'intérêt imaginaire qui prend sa source dans la fierté nationale ?» La fierté nationale est donc l'origine d'un intérêt illusoire, trompeur. Il y a un attachement affectif à la nation qui produit une représentation faussée des intérêts du plus grand nombre. Donc on le voit, l'appel à la sympathie envers la nation est un instrument qui permet de détourner l'attention du plus grand nombre de la réalité de ses intérêts. Le fait que la sympathie soit un élément essentiel de la nationalité apparaît également dans la table de ressort de l'action, où les dérivés du mot « nation » ainsi que les expressions composées à partir de ce terme sont présentées comme autant de manières de désigner la sympathie à l'égard de la communauté politique en général. Ainsi, la nationalité ou l'attachement national sont bien deux expressions désignant une même forme de sympathie. À cette occasion, Bentham souligne l'abondance relative des expressions laudatives, c'est-à-dire des expressions qui induisent une valorisation de l'attachement national. Alors, les appellations neutres sont celles d'attachement national et de zèle national. Elles permettent de désigner la sympathie à l'égard de la nation sans la valoriser ni la condamner, d'où leur caractère neutre. Les appellations péjoratives sont celles de nationalité et de partialité ou préjugé national. Cette fois-ci, en employant ces termes, pour parler de l'attachement affectif à la nation, on entend simultanément dénoncer celui-ci. Enfin, relativement à ces appellations, les expressions laudatives, celles qui appuient une valorisation de l'attachement national, sont abondantes. On trouve en effet les appellations suivantes: patriotisme, esprit public, zèle public, amour du pays. Cette prévalence de termes datifs s'explique par l'influence des intérêts qui sont favorisés par cette forme particulière de sympathie. En effet, si l'attachement à la nation est valorisé par le langage lui-même, c'est parce qu'il sert les intérêts dominants. Et ces intérêts dominants ne sont pas ceux du plus grand nombre, ils sont ceux du petit nombre de leurs dirigeants. Alors, si on fait appel au patriotisme ou à l'esprit public, c'est bien pour obtenir du plus grand nombre qu'il accepte le sacrifice de ses intérêts réels aux intérêts imaginaires de sa nation. La valorisation aveugle de la sympathie nationale est injustifiée et dangereuse. Comme le souligne Voltaire, de la sympathie résulte autant de nocivité que de l'égoïsme, puisque l'objet de l'une et de l'autre est pareillement étriqué. La sympathie à l'égard de la nation n'est pas réellement une sympathie élargie et bénéfique. La préférence nationale est tout aussi étriquée et dangereuse que l'égoïsme. Donc, d'une manière générale, la référence à la nation produit une déformation, un déplacement des intérêts réels du plus grand nombre. Dans les relations entre les États, parler de la nation comme si elle était le sujet réel des intérêts en jeu comporte le risque de voir les intérêts du plus grand nombre sacrifiés à ses ombres, que sont l'honneur ou le rang national. Ainsi, dans les principes du droit international, Bentham estime nécessaire de mettre en garde le lecteur contre la tentation de considérer la nation en elle-même comme une personne. En effet, si la nation possède bien sa propriété, son honneur et sa condition propre, elle n'en devient pas une personne pour autant. Prétendre le contraire serait permettre aux juristes de s'emparer de cette fiction pour en tirer des conséquences fausses et pernicieuses. Je cite Bentham. Alors, à propos de la nation, on dit « Dirons-nous qu'elle possède sa propre personne, gardons-nous de l'emploi d'image en matière de droit, les juristes s'en saisiraient, les transformeraient en fiction, parmi lesquelles toute lumière et tout sens commun disparaîtraient. Alors, des brumes s'élèveraient, au milieu de l'obscurité desquelles ils récolteraient une moisson de conséquences fausses et pernicieuses. » Alors, en elle-même, évidemment, la nation ne peut ressentir ni plaisir ni peine. Elle n'a pas d'existence indépendamment des individus qui la composent. Pour toutes ces raisons, elle n'est pas une personne. Et il faut éviter la création de délits imaginaires contre celle-ci. D'autre part, il convient également de ne pas masquer la diversité des intérêts mis en jeu dans les rapports internationaux. En effet, derrière l'unité fictive de la nation, il faut reconnaître la diversité réelle des intérêts des individus ou des groupes qui la composent. Le calcul d'utilité doit nécessairement prendre en compte cette diversité. Le sujet des intérêts est prioritairement, et non exclusivement, l'individu plutôt que la nation. De la définition de la nation proposée par Bentham, il résulte que le droit international est d'abord un droit entre les souverains. Il sera principalement constitué des droits et des devoirs d'un souverain particulier vis-à-vis des sujets d'un autre souverain. Or, par définition, le souverain est celui qui possède le pouvoir suprême. Et il ne peut exister un pouvoir qui lui soit supérieur. Dans ce contexte, comment pourra-t-on contraindre les souverains à se soumettre aux lois du droit international? La difficulté est d'identifier une sanction pour le droit international. La principale fin du droit international est de réaliser les conditions d'une paix universelle et perpétuelle. Cependant, par certains aspects, la guerre est aussi reconnue comme une forme de sanction possible pour ce droit. Ainsi, il y a une ambiguïté dans l'attitude de Bentham vis-à-vis de la guerre. D'abord, parce qu'il la justifie comme guerre défensive. Ainsi, on trouve dans la correspondance de Bentham l'idée que la défense est une raison qui justifie la guerre. Mais il souligne que l'attaque est appliqué dans la défense. Donc une guerre offensive peut être indirectement justifiée. De plus, dans ses écrits, Bentham compare la guerre à un procès. Le souverain qui attaque se plaignant, le souverain attaqué le défendeur. Alors, cette comparaison doit être rapportée à l'affirmation selon laquelle aucune procédure effective n'est possible pour faire appliquer le droit international. La guerre se substitue alors à cette procédure impossible. Et de ce fait, elle n'est pas entièrement étrangère à la justice. Alors, il ne faudra pas en conclure qu'il existe une justice immanente aux conflits internationaux, quelque chose comme un tribunal de l'histoire. Dans la perspective utilitariste, les maux de la guerre ne sont jamais compensés et justifiés par un hypothétique progrès de la justice. Il s'agit plutôt de substituer à la guerre un moyen moins coûteux et tout aussi efficace de défendre ses intérêts. Le substitut à la guerre est alors l'opinion publique. C'est à l'opinion publique qu'il appartient de transformer la morale et la coutume en un véritable droit. Toutefois, cela impose de remplacer les coutumes par des règles de droit conformes à l'intérêt commun des nations. La difficulté de déterminer chaque souverain à considérer le bien de toutes les nations affectées par son action. Cela est possible en faisant appel à ce que Bentham appelle un motif semi-social. C'est celui de l'amour de la bonne réputation. Il est de l'intérêt de chaque souverain que les sujets d'autres États aient une bonne opinion de lui. De ce fait, dans son attitude à l'égard des autres nations, il devra rechercher l'approbation des opinions publiques concernées. Or, le moyen le plus sûr de l'obtenir est d'éviter de nuire à ces nations et de contribuer directement à leur bien-être. Alors, toutefois, est-il évident que l'opinion publique approuvera systématiquement l'action la plus conforme à l'intérêt des nations considérées ensemble? Eh bien, une opinion publique est nationale avant d'être internationale. Elle est principalement déterminée par l'attachement affectif de chacun à sa propre nation. Or, le danger de cet attachement national ne se limite pas à l'exclusion de l'étranger qu'il implique. En effet, un tel sentiment conduit également à la priorité de la force sur la justice. Lorsqu'il s'agit de la nation et de son honneur, les individus préfèrent toujours la puissance à la justice. Ainsi, Bentham affirme-t-il, je cite, les sentiments moraux de l'humanité en matière de moralité nationale manquent encore tellement de perfection que dans l'échelle des valeurs, la justice n'a pas encore acquis l'ascendant sur la force. La fierté liée à la puissance surpasse la honte liée à la justice. Bentham le souligne en ces termes, je le ressens dans ma propre expérience, mais si moi-même, engagé comme je le suis dans la cause de la justice, en tant que son avocat déclaré, et jusqu'à maintenant le seul dans mon propre pays, j'accorde à la justice une valeur inférieure à celle qui lui est due, que puis-je attendre de la moyenne des gens? Il y a donc une opposition entre la force et la justice, et une incapacité apparente de l'opinion publique à approuver la justice. La problématique est alors la suivante. S'il est vrai que le droit international ne peut pas trouver de sanctions en dehors de l'opinion publique, alors il est nécessaire d'adapter le droit à l'opinion. C'est ce que nous verrons dans un dernier moment. Donc l'opposition entre la force et la justice ne serait finalement que le reflet d'une mauvaise appréciation des intérêts réels de la nation. Bentham propose alors de définir l'utilité commune à toutes les nations comme la ligne de moindre résistance. Ligne de moindre résistance, l'expression de Bentham dans les principes du droit international. En effet, chaque nation est susceptible de rencontrer une résistance plus ou moins grande de la part de toutes les autres. Il en résulte que plus cette résistance est réduite, plus l'action de la nation devient importante, efficace. Maximiser la force signifie minimiser l'opposition. Or, encore que le meilleur moyen de réduire la résistance d'une autre nation, c'est de s'abstenir de lui nuire, puis de contribuer directement à son bien-être, dans la mesure où cela ne compromet pas le bien-être de sa propre nation. On voit à ce moment que la fin du droit international, c'est-à-dire l'utilité des nations considérées ensemble, est compatible avec la fin particulière de chaque nation, c'est-à-dire la plus grande force possible pour soi-même. Dans ce raisonnement, le vocabulaire de la force apparaît équivalent à celui du bonheur. Dans les relations internationales, l'expression « le plus grand bonheur du plus grand nombre » deviendrait la plus grande force pour chaque nation. Dans ce contexte, l'expression « utilité commune et égale de toutes les nations » pour désigner la fin du droit international est ambiguë. Alors cette expression « utilité commune et égale des nations » n'apparaît qu'une fois dans les essais de Bentham sur le droit international. Elle est rapidement remplacée par l'expression plus restreinte d'utilité commune des nations. Cette modification de la terminologie, en apparence anodine, n'est pas sans conséquence. Elle indique le sens qu'il faut donner au principe d'égalité de toutes les nations. Égalité de toutes les nations que Bentham considère comme fondamentale pour le droit international. Cette égalité, en effet, ne doit pas être conçue comme une égalisation des forces des différentes nations. Le droit international comporte bien une réduction de la force pour certaines nations, mais cette réduction ne doit pas modifier la hiérarchie des puissances. Or, Bentham l'explique en ces termes, il peut être difficile de persuader un lion de couper ses griffes, cependant si le lion, ou plutôt si l'énorme condor qui le tient fermement par la tête, devait accepter de couper ses serres également, il n'y aurait aucun déshonneur dans cette demande. L'avantage ou l'inconvénient serait réciproque. Donc, le droit international impose une réduction des armements et des effectifs militaires. Mais cette réduction étant réciproque, elle ne modifie pas l'équilibre des puissances. Elle ne se traduit par aucun ressentiment, par aucun déshonneur. Le principe d'utilité apparaît alors comme conservateur. Il doit permettre aux relations internationales d'atteindre un point d'équilibre ou un point de repos duquel elles ne pourront s'écarter qu'avec la plus grande difficulté. L'utilité commune des nations étant précisément ce point, je cite, « dans lequel toutes les forces trouveront leur équilibre et duquel on rencontrera la plus grande difficulté à les écarter. » D'autre part, la différence entre la simple utilité commune et l'utilité commune et égale des nations exprime une différence de point de vue sur les relations internationales. L'utilité commune et égale de toutes les nations est la fin que se proposerait un citoyen du monde, selon l'expression de Bentham dans ses principes du droit international. Or, le point de vue du citoyen du monde se définit précisément par l'absence de toute référence à une nationalité. Le citoyen du monde est celui pour lequel la nationalité n'a aucune pertinence politique ou morale. Il n'y a donc pour lui, pour le citoyen du monde, ni distinction, ni hiérarchie entre les intérêts de sa propre nation et les intérêts de n'importe quel autre. Dans cette perspective, le principe d'utilité est un principe d'égale considération des intérêts de toutes les nations. Aucun intérêt n'a plus ou moins de valeur qu'un autre, simplement parce qu'il est celui de telle ou telle nation. Toutefois, le souverain d'un État particulier ne peut pas adopter cette perspective. Il est tenu d'agir dans l'intérêt d'une nation particulière. Donc sa fin ne peut pas être l'utilité égale de toutes les nations. Par sa position même, il doit privilégier, il doit maximiser l'utilité de sa propre nation. En revanche, comme le souligne Bentham, il ne peut pas ignorer l'utilité commune à toutes les nations. En effet, cette utilité détermine ce qu'il est en droit d'attendre des autres nations, tout comme elle détermine ce que les autres nations sont en droit d'attendre lui-même. Ce qui est utile à chaque nation constitue en effet ce sur quoi elles peuvent s'accorder, ce en vue de quoi elles peuvent coopérer. Étant donné qu'une différence de perspective implique toujours une différence d'objet, la fin du droit international relation entre les souverains. Il ne s'adresse pas à un citoyen du monde. La fin recherchée sera donc l'utilité simplement commune des nations et non leur utilité égale. Cela signifie que les rapports de force, que les déséquilibres en termes de puissance ou de richesse ne seront pas essentiellement modifiés par le droit lui-même. D'ailleurs, comment amènerait-on un souverain à accepter le droit international si cela devait signifier pour lui une diminution de sa puissance au profit des nations étrangères? Il s'agit donc de démontrer que chacun peut maximiser sa propre puissance grâce au droit. L'égalité des nations est alors problématique. Ainsi, selon des notes manuscrites à propos du droit international et rapportées par Ernest Smith, Bentham envisage une fédération universelle explicitement fondée sur l'égalité de tous les États. Cette égalité serait inscrite dans les articles fondateurs du Code de droit international. Effectivement, après un premier article qui énumère tous les États réunis par cette fédération, selon un ordre alphabétique, précisément afin d'éviter toute présomption de supériorité due à l'antériorité dans un ordre de présentation, Bentham propose l'article suivant. L'égalité de tous est, de cette façon, reconnue par tous. Il place alors au premier rang des principes fondateurs du droit international l'égalité universelle. Cette égalité est une égalité politique. Elle se traduit en effet par des dispositions visant à assurer un pouvoir égal à toutes les nations au sein de leur fédération. Ainsi, Ernest Smith affirme que Bentham suggère l'idée de la rédaction d'un code de droit international par un congrès qui serait composé d'un délégué par État. Il précise également que ce code comprend l'établissement d'un tribunal arbitre, congrès, composé de deux délégués par puissance. Ainsi, chaque nation a le même nombre de délégués, quelle que soit sa population, sa richesse ou encore sa puissance militaire. Les droits politiques des nations sont strictement égaux. Une supériorité de la force n'est pas une supériorité politique. Alors, la principale difficulté sera d'obtenir des nations les plus puissantes qu'elles acceptent cette égalité politique. Pour résoudre cette difficulté, il faut tout d'abord souligner que la Fédération universelle des nations n'est pas une république universelle. En effet, dans le système du droit international, il ne peut pas exister une autorité qui soit investie d'un pouvoir de coercition dans l'application des lois. Bentham souligne que même le Congrès international ne peut pas se voir reconnu un pouvoir coercitif. Cela aboutirait en effet, je cite, à une république universelle incompatible avec la souveraineté des différents souverains à l'intérieur de leur domaine respectif. Ainsi, une souveraineté commune et universelle serait finalement une pure et simple contradiction. Cette possibilité est exclue par la notion même de souveraineté. En d'autres termes, la référence à une nationalité ne peut pas disparaître au sein d'une fédération universelle. Cette fédération universelle se voit même attribuer, parmi ses principales fonctions, la garantie de l'indépendance et de l'autonomie de chaque État. Ainsi, la puissance d'un souverain particulier ne se trouve pas réellement mise en cause par les pouvoirs reconnus au Congrès international des États. L'égalité politique est rendue compatible avec l'inégalité de puissance entre les nations. D'autre part, en montrant que l'égalité politique est dans l'intérêt de toutes les nations, Bentham s'efforce de concilier le point de vue du citoyen du monde et le point de vue du souverain d'une nation particulière. Une fois ces points de vue distingués, la difficulté c'est de les accorder. En effet, c'est en réalisant le bien-être le plus étendu de toutes les nations sur Terre que chaque souverain pourra atteindre sa propre fin, à savoir le plus grand bien-être possible pour sa propre nation. Toutefois, cette harmonie des intérêts nationaux est un autre chose qu'un postulat indispensable à la possibilité d'un droit international. Cette harmonie n'a de sens que sur fond de la résistance mutuelle des différentes nations. C'est parce que les nations sont en position de se faire obstacle les unes aux autres qu'elles doivent réduire leurs oppositions, qu'elles doivent s'accorder. Alors, il reste une difficulté. En effet, une nation qui n'oppose à une autre aucune résistance risque bien de se voir exclue de la protection du droit international. Quel motif un souverain peut-il avoir de considérer le bien-être d'une nation qui ne lui offre aucune opposition? Alors, pour répondre à cette question, Bentham envisage un système d'alliance. Le droit international aboutit à des alliances défensives qui figurent notamment dans les moyens de prévenir les conquêtes. La faiblesse relative d'une nation ne peut donc pas l'exclure du droit international. On pourrait encore demander pour quelles raisons les nations accepteraient de mettre en commun leurs forces. Bien, il ne s'agirait ni de bienveillance, ni d'une forme de sympathie des nations les plus puissantes envers les nations les plus faibles. En effet, faire de l'alliance défensive une obligation juridique est un moyen de prévenir les conquêtes pour toutes les nations. Ce n'est pas simplement un moyen de défense pour les nations les plus faibles. Cette alliance est donc directement utile à chaque nation, même si son utilité est inégale aux différentes nations. Les rapports de force se trouvent donc effectivement modifiés par les rapports de droit entre les nations. Ainsi compris, le principe d'utilité est un principe d'inclusion. Il doit permettre d'étendre progressivement la sphère du droit international. Enfin, ce système d'alliance défensive fournit par avance des arguments décisifs contre les colonisations entreprises dans le courant du XIXe siècle. La justification utilitariste des colonies sera de type paternaliste. La colonisation devant être effectuée dans l'intérêt des peuples colonisés, devant leur apporter la puissance, le bien-être qui leur font défaut. Or, si l'on donnait toute leur extension au principe du droit international tel que les conçoit Bentham, ils rendent impossible les colonisations. Alors, par exemple, parmi les torts qu'une nation peut causer à une autre, Bentham compte l'insolence du fort à l'égard du faible, qui indiscutablement fait partie de l'entreprise coloniale. De cette façon, il n'y a aucune raison d'exclure les nations les plus faibles des alliances, des conventions prévues par le droit international. Au contraire, leur faiblesse relative est déjà une forme d'infraction au droit international de la part des nations les plus puissantes. Et elle leur fait obligation de réduire cette puissance. Alors, je vais conclure. Dans cette dernière partie, on montre que le principe d'utilité sert à démontrer l'accord de la justice et de la force. Et c'est parce qu'il y a un accord entre la force et la justice que l'opinion publique suffit à sanctionner, à garantir le droit international. En effet, ce que veut l'opinion publique nationale, c'est la force de sa propre nation. Et ce qui réalise cette force, c'est la justice, c'est le droit international. On pourra donc prendre appui sur l'opinion publique. Cependant, faire reposer le droit international sur l'opinion publique, n'est-ce pas directement promouvoir les sentiments moraux contre toutes les exigences du principe d'utilité, dont la justification était précisément de fournir un critère de jugement, l'utilité, extérieur au sentiment de celui qui juge. Or, bien sûr, une opinion n'est pas un sentiment, dans la mesure où elle est susceptible d'être déterminée d'une manière rationnelle. Ainsi, dans les principes du droit international, le raisonnement apparaît régulièrement dans les moyens de prévenir les guerres. Selon Bentham, de nombreux conflits pourraient être évités à l'aide de la réflexion, c'est-à-dire par la simple preuve, dans le débat public, de l'opposition entre les passions, d'une part, et les intérêts réels, d'autre part. L'existence d'une délibération internationale et publique, donc l'existence universelle de la liberté de la presse est alors fondamentale. L'opposition des sympathies et des antipathies nationalistes trouve sa résolution dans l'exercice international et public de la raison. Toutefois, la nation reste l'unité fondamentale dans la fédération universelle conçue par Bentham. Or, la nationalité n'est-elle pas précisément le principal obstacle à la rationalité de l'opinion publique, s'il est vrai que la fierté nationale est la source de cet intérêt imaginaire que Bentham dénonce dans le cadre des colonies. Puisqu'il me reste quelques minutes, je voudrais revenir sur le fait que Bentham renouvelle le sens de la fiction de la nation en la rattachant au pouvoir légitime d'un souverain. Il convient de ne pas le perdre de vue. Toutefois, ici, le caractère essentiellement relatif et éminemment problématique de la notion de nation est perdu de vue sans être complètement résolu. Ainsi, dans le manuel du sophisme politique, la nation apparaît comme le résultat contingent et provisoire du vivre ensemble, c'est-à-dire d'une habitude. En effet, Bentham y étudie l'union entre deux États afin de déterminer quelles garanties il serait possible d'apporter à chaque nation au sein du composé. Alors, c'est un cas particulier étudié par Bentham. Ce qui m'intéresse, c'est sa conclusion. Il affirme alors que la division, qui est le fondement du problème, puisque chaque nation redoute l'oppression de l'autre, finit par disparaître d'elle-même. Je cite Bentham. Tôt ou tard, la durée même de l'union produit le remède naturel. Car tôt ou tard, les deux nations, par l'habitude de vivre ensemble, se mélangeront en une seule. Et leurs craintes réciproques auront été dissipées par une expérience commune. La nation est alors une création de la politique. En tant que la politique est précisément la pensée et l'organisation du vivre ensemble. La nation ne doit pas être substantialisée. Elle n'est que l'effet provisoire des unions entre différents États et leur opposition. À chaque réorganisation de la souveraineté doit correspondre à terme une redéfinition des nations. Alors, si tel est le cas, est-il pertinent de maintenir la nation comme le sujet du droit entre les États? Alors, ça pourrait apparaître comme une question de mots, donc je rappelle l'importance que Bentham accorde aux termes que l'on choisit, puisque précisément, ils impliquent des jugements en faveur. Lorsque le juriste ou l'homme politique considère les nations comme des entités qui lui sont données, et dont il n'aurait qu'à définir ensuite les relations extérieures, il oublie que ces objets ne sont que le produit ou le reflet de sa propre activité. Ils ne sont jamais réellement donnés, mais toujours constitués. Ainsi, si la politique et la législation créent la nation, elle devrait également pouvoir s'en défaire, elle devrait pouvoir s'en émanciper. S'il est vrai que la fierté nationale, que l'antipathie nationale font partie des causes de la guerre, comme le souligne Bentham, alors il est sans doute souhaitable de réduire la référence à la nation dans la loi comme dans le discours politique en général. D'ailleurs, si on se réfère à l'étymologie du mot nation, on sait que ça vient de naski, naître. Donc l'étymologie montre que l'on a une conception naturaliste de la nation. La sympathie nationale érige ce qui n'est qu'une différence de degré entre les nationalités en différence de nature. Elle fige ce qui est provisoire. Elle rend absolu ce qui n'est que relatif. Elle est donc éminemment problématique lorsqu'il s'agit de faire valoir un droit international.